Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient dans un instant, vous le savez, c'est votre rendez-vous avec la rédaction d'RFI, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité, n'attendez pas évidemment le début de l'émission pour nous contacter, vous pouvez le faire tout au long de la journée, le standard est ouvert évidemment, 33 9 693 693 70, vous connaissez le principe, s'il vous manque des clés, des repères pour décrypter tous les sujets que nous venons par exemple d'aborder dans le journal de 9h ici à Paris, eh bien vous nous appelez surtout, n'hésitez pas. Et puis dans 30 minutes, vous réagirez à la colère de la jeunesse tchadienne. Contrairement aux dispositions de la Constitution, le gouvernement n'autorise jamais les jeunes à exprimer leur mécontentement. Voilà ce que disait sur RFI le président d'un collectif d'associations de jeunes après la manifestation de lundi à N'Djamena, qui a été violemment réprimée par les forces de l'ordre. Un étudiant est d'ailleurs mort lors de ces échauffourées. Des étudiants et des lycéens qui manifestaient contre le port du casque obligatoire pour les motos. Le droit de manifester serait-il respecté? En tout cas, depuis 3 jours, eh bien, les écoles et les universités tchadiennes sont fermées. Vos réactions et vos témoignages sont nombreux. Vous êtes nombreux au standard à souhaiter réagir après ces violentes manifestations. On vous donnera évidemment la parole. 33 9 693 693 70. Vous réagissez sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission. RFI appelle sur l'actualité. Il y a par exemple Mahamat qui nous dit que le droit de manifester est reconnu, mais en pratique il est interdit. Félix, lui, dit oui, les Tchadiens ont le droit de manifester, mais pas de vandaliser. Donc vous le voyez, chacun a son point de vue et on aura l'occasion d'en débattre ensemble dans une trentaine de minutes. Mais d'abord, ce sont donc vos questions à la rédaction, questions sur le Mali, notamment après l'attentat qui a frappé vendredi soir la capitale. Bonjour Abdelkrim.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio France Internationale.
Vous nous appelez de N'Djamena, on vous écoute, quelles sont vos questions?
Suite à l'attaque des restaurants à Bamako le week-end dernier, le gouvernement français a envoyé 10 policiers sur place. À cet effet, j'aimerais savoir pourquoi avoir envoyé des policiers français? Quelle est leur mission?
Oui.
Et comment mener l'enquête?
Ah, et comment ils mènent
enfin,
l'enquête? Alors, on va déjà répondre à ces questions, Abdelkrim, avec Marie-Pierre Olfan, qui est l'envoyée spéciale des RFI à Bamako. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Juan, bonjour Abdelkrim.
Rappelons que cet attentat a été revendiqué par le groupe djihadiste de Mokhtar Belmokhtar. 5 personnes ont été tuées, 3 Maliens, 1 Belge et 1 Français. Et effectivement, comme le rappelait à l'instant Abdelkrim, 10 d'enquêteurs français sont arrivés sur place dimanche soir.
Oui, c'est ça, avec un procureur du pôle antiterroriste. Ils sont là pour prêter main forte à leurs homologues maliens qui ont été les premiers sur les lieux. Mais ils sont là aussi et surtout parce qu'il y a une enquête ouverte à Paris. Car vous le savez, un jeune Français, Fabien Guillaume, qui vivait au Mali depuis 7 ans, qui est tué le soir de l'attaque dans le bar-restaurant. Alors parmi ces enquêteurs qui sont arrivés de Paris, il y a des experts de l'antiterrorisme et des hommes et des femmes aussi de la police scientifique, bien sûr. Ils travaillent en coopération avec les policiers maliens et comme eux, ils se rendent chaque jour sur les lieux du drame depuis lundi pour collecter encore des indices, prendre des photos, bref, examiner la scène de la fusillade et essayer d'en tirer le maximum d'informations. Ils ont aussi interrogé des personnes qui étaient là le soir du drame, comme le patron de l'hôtel, la terrasse. Mmh. Et ils doivent encore poursuivre d'ailleurs aujourd'hui leurs auditions.
Comment cette enquête, Marie-Pierre, est-elle menée? D'ailleurs, qui mène l'enquête sur place?
Mais écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que tout d'abord, dès les premières heures, et ça a été très important, il y a eu une intervention, évidemment, des policiers maliens, mais aussi d'experts de la MINUSMA, la force des Nations Unies, et aussi des policiers d'une mission européenne présente ici à Bamako déjà. Et ces gens-là, ces hommes, ces femmes, ont pu prêter main forte aux Maliens, aux policiers maliens, en leur apportant leur expertise et aussi une aide matérielle pour les premiers relevés scientifiques. Aujourd'hui, l'enquête est menée sur plusieurs fronts et par plusieurs services. Il y a d'abord évidemment le côté judiciaire. Le procureur de la République, le procureur Samaké, a été désigné pour suivre ce dossier en étroite relation avec le procureur général Daniel Amagouin-Tissogué. Sur le terrain, ceux qui sont à l'œuvre, ce sont les policiers du commissariat du 3e arrondissement de Bamako, car c'est de ce quartier que dépend le bar-restaurant La Terrasse. Ce sont eux qui ont réalisé les premiers interrogatoires des témoins et dressé les procès-verbaux. Comme je vous l'ai dit, un Français a été tué, il y a eu aussi un ressortissant belge, et donc il y a des policiers belges et des policiers français dont on vient de parler, qui sont ici et qui travaillent toujours en coopération avec les policiers maliens. Et il y a aussi, bien sûr, les renseignements, les services qui font leur enquête de leur côté, comme toujours.
Et vous parliez tout à l'heure, Marie-Pierre, de la MINUSMA, la mission des Nations Unies. C'est vrai qu'elle est mise à contribution et son rôle est important.
Oui, un rôle important parce que effectivement, ça a été nécessaire. Les policiers de la MINUSMA, les gendarmes de la MINUSMA avaient une expertise, notamment dans le relevé sur place d'indices, tous les relevés scientifiques. Ils avaient du matériel que n'avaient pas forcément les policiers maliens, peu habitués ici à Bamako à ce genre d'attaque. C'est une attaque inédite ici dans la capitale. Et donc la MINUSMA a prêté main forte tout de suite dès le samedi sur place, sur les lieux de l'attaque.
Ouais, vous étiez il y a quelques minutes en direct dans le journal de 9h. Vous disiez que l'enquête se poursuivait. Y a-t-il malgré tout du nouveau ?
Écoutez, les assaillants, c'est important de le dire, sont toujours en fuite, mais les premiers témoignages, et ça c'est nouveau, ont permis d'élaborer des ébauches de portraits robots. Les enquêteurs sont arrivés à la conclusion que les assaillants, ce soir-là, qui participaient à l'attaque, étaient au moins 5. Alors sont-ils encore à Bamako ou en dehors de la capitale ? Personne ne peut le dire aujourd'hui. On ne sait toujours pas dans quel type de véhicule ils ont réussi à prendre la fuite, mais on sait qu'il est noir. Déjà une première chose, la marque n'est pas encore définie. Et là, une vidéo tournée sur place qui a été communiquée, donnée aux policiers, pourrait peut-être permettre bientôt d'en savoir plus. En tout cas, l'enquête se poursuit et des indices continuent toujours d'être récoltés sur les lieux du drame. Les auditions se poursuivent, il y en aurait déjà eu une vingtaine jusque-là. Voilà, tout ce qu'on peut dire à ce stade.
À ce stade, et on suivra l'évolution de l'enquête évidemment avec vous, Marie-Pierre Olfan, envoyée spéciale d'RFI à Bamako. Et on reviendra sur cet attentat demain dans la libre antenne, puisque vous êtes très nombreux à souhaiter revenir sur cet attentat, mais aussi sur l'attaque de Kidal qui a eu lieu moins de 24 heures après l'attentat de Bamako. Et on a justement une question sur cette attaque à Kidal. Aliou, bonjour.
Bonjour, monsieur Wang.
Vous nous appelez.
Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes au Cameroun.
Oui, je suis au Cameroun, en Gaounéré, plus précisément.
D'accord, on vous écoute.
Oui, monsieur Wang, il y a de cela quelques jours, le camp de l'ONU a été attaqué à Kidal. Il y a eu, je crois, 4 morts, il y a 2 enfants, plus une dame, un militaire tchadien. Par rapport à toutes les dispositions que l'ONU devrait prendre pour éviter ce genre de cas malheureux, et dans l'avenir, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de problèmes pour sécuriser le camp de l'ONU?
Ouais, le camp de l'ONU, effectivement, qui a été la cible d'une trentaine de tirs de roquettes et d'obus. Alors, 2 enfants, effectivement, ont été tués dans cette attaque, ainsi qu'un casque bleu tchadien. Bonjour Serge Daniel.
Juan, bonjour. Aliou, bonjour.
Vous êtes l'un des correspondants des RFI au Mali. Cette attaque, d'ailleurs, n'a toujours pas été revendiquée. Ce n'est pas la première fois que des casques bleus sont pris pour cible dans le nord du Mali.
Non, ce n'est pas la première fois que les casques bleus sont pris pour cible dans le nord du Mali. Vous savez qu'il y a 3 régions dans le nord, Tombouctou, Gao et Kidal. Mais la région de Kidal couvre 260 000 km², dont 110 km² de massifs rocheux montagneux. Ceci pour dire, Juan, qu'elle est plutôt difficile à surveiller, à protéger contre l'ennemi. À Kidal, il existe un camp de la mission de l'ONU, des hommes également, Secret Défense, on ne donne pas leur nombre, mais légère équipe de liaison de l'opération Barkhane actuellement sur place. Alors, pourquoi malgré ça, il y a souvent des attaques? D'abord parce que ce sont des armes, c'est-à-dire les obus, les roquettes, ce sont des armes tirées de loin. Ensuite, ce n'est généralement pas un combat corps à corps. Les islamistes évitent le contact. Il y a donc l'effet de surprise, de guerre asymétrique. Ensuite, et c'est très important à Liou, pour la réponse à votre question, pour défendre Kidal, il faut du matériel aérien, c'est-à-dire des hélicoptères, des avions de surveillance, de combat, qui jouent un rôle décisif. Or, depuis que l'opération Serval est devenue l'opération Barkhane. Les militaires français sont désormais déployés dans tout le Sahel avec leur matériel. Et la mission de l'ONU, c'est-à-dire les casques bleus de l'ONU, n'ont pas assez d'avions pour, par exemple, faire face à la situation. Et c'est le gros problème, manque de matériel de la mission de l'ONU à Kidal.
La MINUSMA qui est aujourd'hui considérée comme la plus dangereuse des missions de l'ONU depuis son déploiement dans le nord du Mali. La MINUSMA a plusieurs fois été la cible d'attaque, on en parlait à l'instant, Serge. 30 casques bleus, j'y arrive, sont morts ces deux dernières années. Des civils, eux, ont été tués également lors de la dernière attaque des djihadistes. Sait-on dans quelles circonstances? Comment ont-ils été tués?
Alors, les civils ont été pris entre deux feux, c'est-à-dire entre les roquettes tirées par les islamistes et la riposte des forces alliées. Les forces alliées, il y a l'opération Barkhane et la mission de l'ONU. D'après nos informations, c'est une bavure, il faut donc chercher entre la mission de l'ONU et les forces de l'opération Barkhane.
À suivre donc. Merci beaucoup Serge Daniel, correspondant d'RFI à Bamako. Aliou, bonne journée à Gaoundéré, donc au Cameroun. Bonjour David Thompson.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. On a reçu plusieurs questions sur la Libye. On sait que depuis hier, il y a des discussions de paix sous l'égide de l'ONU qui ont repris à Alger. L'objectif étant de trouver un compromis entre les deux gouvernements rivaux, les deux gouvernements qui se disputent le pouvoir. En tout cas, sur le terrain, les opérations militaires se poursuivent. Le pays, vous le savez, est au bord du chaos. Edbert, bonjour.
Bonjour Juan Gomez et bienvenue chez nous à Parakou au Bénin.
Parakou au Bénin, merci de nous accueillir sur place. Vous avez des questions sur la Libye?
Oui Juan, le général Haftar a été nommé à la tête de l'armée libyenne. Alors quel sera son rôle à la tête de cette armée? Sa nomination a été faite par l'armée de Tobruk. Alors, est-ce que cette nomination a été approuvée par l'armée libyenne et partout dans le pays?
Oui, nomination approuvée par le Parlement de Tobruk. Il y a deux parlements en ce moment en Libye, David Thompson. L'un qui est reconnu par la communauté internationale, c'est celui de Tobruk, et l'autre qui se trouve à Tripoli. Alors effectivement, ça fait des mois et des mois que les auditeurs entendent parler de ce fameux général Haftar qui est controversé. On a un peu l'impression que le Parlement de Tobruk a créé ce poste de chef de l'armée libyenne juste pour lui. Ce poste n'existait pas auparavant.
C'est un poste, effectivement, qui a été créé sur mesure pour le général Haftar. Pour autant, il faut bien comprendre qu'au sein même de la Chambre des représentants, donc ça c'est le nom du Parlement de Tobruk, sa nomination a fait beaucoup de vagues. Cette alliance, ou ce Parlement, finalement c'est un Parlement comme tous les autres. Même si ils défendent un camp, au sein de ce camp, il y a beaucoup de tendances. Et c'est un camp qui est très hétéroclite. Il y a des gens qui sont pour une solution politique. C'est sur cette partie du Parlement de Tobruk que l'ONU essaye de s'appuyer pour former un gouvernement d'union nationale avec le clan modéré de l'autre gouvernement rival de Tripoli. Mais beaucoup estiment que le général Haftar ne fait pas partie de ce camp dit modéré au sein du gouvernement de Tobruk, qu'il fait plutôt partie d'une ligne intransigeante qui considère qu'elle n'a pas intérêt à aller aux négociations politiques pour gagner la guerre militairement sur le terrain. Pour le général Haftar, tous ses opposants sont en gros le groupe État islamique, que ce soit les milices locales, les frères musulmans, Ansar al-Sharia ou pour le coup l'État islamique. Tous sont des terroristes à ses yeux, donc c'est une tendance au sein du gouvernement de Tobruk. Qui est considéré par beaucoup d'acteurs et notamment par la communauté internationale comme une tendance qui n'est pas sur une ligne, disons, modérée au sein, en tout cas pas pour une solution politique.
Et la mission qui est confiée donc au général Haftar, donc le désormais chef de l'armée libyenne, c'est quoi? C'est de mater tous les terroristes?
Cette loi qui a été votée par le Parlement de Tobruk, donc qui a créé ce poste de chef de l'armée pour le général Haftar, en fait elle lui permet d'échapper à tout contrôle civil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ce qui est des activités de l'armée dite nationale libyenne, qui est finalement une milice comme une autre en Libye, le général Haftar en est le seul chef, c'est-à-dire qu'il ne dépend plus du ministère de la Défense pour les activités de l'armée de terre.
Donc il rend des comptes à qui?
Il ne rend des comptes qu'à lui-même.
D'accord. Voilà. Ok, bah ça le mérite d'être clair. Donc carte blanche finalement au général Haftar pour essayer de repousser notamment l'organisation de l'État islamique. Autre question, je me fais le porte-parole de Ruffin qui nous dit voilà, Haftar est un ancien officier de Kadhafi. Au regard de son parcours, pourquoi le choisir comme chef de l'armée? C'est vrai qu'il a un parcours assez curieux.
Bah, le parcours du général Haftar, c'est un parcours de cinéma presque. Hein. C'était effectivement un haut gradé de l'armée kadhafiste. Il a participé à la guerre contre le Tchad.
Mmh. Il a même participé à la prise de pouvoir par Kadhafi en 67.
Absolument. Et ensuite, il a été fait prisonnier lors de cette guerre contre le Tchad et il a été retourné par les Américains. Il est finalement devenu agent de la CIA. Ouais. Puis aujourd'hui, citoyen américain. Il a la double nationalité.
Il a vécu pendant une vingtaine d'années aux États-Unis.
Mmh. Il est revenu après la Révolution et au départ, lorsqu'il est arrivé l'année dernière, si on peut dire, dans le jeu libyen, les gens ne l'ont pas pris au sérieux. Pourtant, il avait derrière lui beaucoup d'ex-membres de l'armée et au départ, il a commencé cette guerre, on s'en souvient, en mai dernier à Benghazi contre les djihadistes, en son nom propre, là encore. La fameuse opération Dignité, lancée avec peu de succès en mai dernier, et aujourd'hui, notamment à la faveur de soutien des Émirats Arabes Unis et de l'Égypte, en tout cas en matériel, ça c'est sûr, et aussi par les voies, par des raids aériens, eh bien il a fini par s'imposer sur le terrain, et aujourd'hui, pour la première fois, il est maintenant officiellement incorporé d'abord au sein de l'armée libyenne, ou ce qu'il en reste, et puis à sa tête.
Autre question, toujours sur la Libye. Bonjour Jérémy.
Bonjour Monsieur Wan.
Vous êtes à Lomé, on vous écoute avec David Thompson.
Oui. Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Mondiale. La semaine dernière, les gardes des installations pétrolières ont annoncé que les islamistes radicaux s'étaient emparés de deux champs pétrolifères situés au sud de Sirte. À ce propos, j'ai deux questions. Qui achète ce pétrole extrait par ces islamistes radicaux? La deuxième question, comment ces zones occupées sont-elles administrées?
Alors, la guerre libyenne qui est devenue finalement, David Thompson, une guerre du pétrole. Il y a plusieurs champs pétroliers dans le bassin de Sirte qui ont été attaqués récemment. Les djihadistes contrôlent le pétrole en Libye?
Alors, donc là, il y a deux questions sur l'administration des villes tenues par les djihadistes et ensuite la question du pétrole. Donc d'abord, la question du pétrole. Aujourd'hui, sur le territoire libyen, aucun groupe djihadiste n'est en mesure de contrôler des champs pétroliers, des raffineries ou quoi que ce soit qui leur permettent d'exporter du pétrole. Ils exportent, ils vendent en Syrie, en Irak, en Libye, ce n'est pas encore le cas. Pour ce qui est de ces champs pétroliers qui ont effectivement été attaqués à plusieurs reprises, notamment autour du fameux terminal, enfin du fameux champ pétrolier d'Al Mabrouk, à 200 km au sud de Sirte, on ne sait pas encore vraiment quel groupe s'en est emparé. Effectivement, il y a eu des attaques très meurtrières, il y a eu des ressortissants étrangers, notamment philippins.
Ouais, neuf étrangers. Hein.
Alors certains ont été exécutés, d'autres ont été pris en otage et les autorités philippines ont attribué cette attaque à la branche libyenne de l'État islamique. Pourtant, ce qu'il faut dire, c'est que pour le moment, la branche libyenne de l'État islamique n'a pas encore revendiqué cette action. En tout cas, ces champs pétroliers, au moment où on parle, sont à l'arrêt. Donc, ils n'exportent pas de pétrole.
Ce qui est évidemment un coup dur pour l'économie libyenne, puisque le pétrole représente tout de même 90% des revenus de l'État, en tout cas sur le papier, avant la chute de Kadhafi.
Absolument. Tout le PIB libyen, en tout cas avant 2011, repose sur cette économie du pétrole. Aujourd'hui, il est quasiment à l'arrêt. Il y a encore des stations offshore qui exportent.
Ça veut dire en mer.
Qui sont sous l'autorité du gouvernement de Tripoli. Mais les principaux terminaux dans la région à l'est, qui sont sous contrôle, alors de l'armée tribale, c'est-à-dire des fédéralistes qui sont dirigés par Ibrahim Jadran et donc pour l'instant échappent au gouvernement de Tripoli et sont plutôt liés au gouvernement de Tobrouk. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir évidemment avec ce qui s'est passé avant-guerre.
Ouais. Merci beaucoup David Thompson d'être venu répondre à des questions d'auditeurs sur une situation bien compliquée, bien complexe qu'est le contexte libyen. D'autres questions à la rédaction évidemment demain et d'ici là vous nous appelez, on vous attend toute l'équipe au standard 339 693 693 70 et vous pouvez également nous envoyer vos questions sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission, sans oublier de nous indiquer un numéro de téléphone afin que vous puissiez être en direct. sur l'antenne d'RFI et poser directement vous-même vos questions aux journalistes d'RFI. Tout de suite le journal et on revient dans 10 minutes pour le débat du jour. On parlera du droit de manifester au Tchad. Est-il respecté? Non, disent les étudiants. Oui, dit le parti au pouvoir. Eh bien, on en débat dans 10 minutes. Merci de rester avec nous.